La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette dernière étape sur les traces de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Et quel meilleur endroit que Saint-Malo et le festival Étonnant Voyageur pour revenir sur cette grande figure de la littérature de voyage et aussi de la littérature tout court. Car ce que nous confirme chaque année le festival Malouin, où nous avons posé nos valises, c'est qu'il n'y a pas de raison d'isoler cette littérature de l'ailleurs des autres formes littéraires, car elle embrasse tout autant qu'aucune autre la vie dans tous ses aspects. C'est en particulier le cas avec Nicolas Bouvier, dont nous avons parlé toute la semaine, avec les écrivains François Lowe, Nadine Laporte et Gilles Lapouge, et dont on va traquer aujourd'hui les signes chez d'autres écrivains qui l'ont suivi, poursuivi ou tout simplement regardé. Pour ce faire, trois invités sont avec moi autour de cette table. La première vient d'être couronnée par le prix Bouvier remis chaque année ici à Étonnant Voyageur pour son livre Le Grand Marin. Il s'agit de Catherine Poulain. Le second s'appelle David Lefebvre, il est un globetrotteur et il est parti sur les traces de Bouvier en Irlande. Il l'a raconté dans un article de la revue Europe. Le troisième s'appelle Christian Garcin. Lui, c'est en Chine qu'il est allé chercher Nicolas Bouvier. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Rôdeur, c'est un très bon mot parce que moi je déteste qu'on me dise grand voyageur ou explorateur. Il y a des gens qui ont voyagé mille fois plus que moi. Donc c'est une connotation que je trouve un peu rustique. Mais rôdeur, oui. Rôdeur, flâneur. Et moi je suis un flâneur planétaire. Je peux aller flâner dans les confins de l'Asie centrale. Je peux aller flâner un peu partout. Et puis, l'oreille bien tendue, la narine ouverte, l'œil bien ouvert. Et puis, quelquefois, il se passe quelque chose. Très souvent, il ne se passe rien.
Longs moments de rien.
Ah, vous savez, beaucoup de l'existence est faite de ça. Alors, on cherche passionnément. L'émoi, l'émotion, le contact avec l'autre, parce qu'on se sent soi-même comme un jouet inhabité. Comme ces petits camions en plastique vide que vous trouvez sur la rue à côté des poubelles. On est souvent dans cet état-là et puis on se dit « Mais merde, j'ai quand même le cœur qui bat, je pompe l'air des autres. » Il faudrait bien que quelque chose surgisse. Mais les choses surgissent. Mais il faut vraiment les souhaiter. Oui.
Une archive extraite du Bon Plaisir qu'avait consacré en son temps France Culture à Nicolas Bouvier. Bonjour Catherine Poulain.
Bonjour.
Je vous regardais pendant la diffusion de cette archive, l'écouter assez intensément. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de cette voix que vous ne connaissez pas particulièrement, qui est la voix de Nicolas Bouvier ?
Eh bien, je pensais à ce voyage dont il parle. Je pensais à ces petits riens. Et je pensais à cet arrachement que pour moi le voyage a toujours été. Il fallait que ça commence par l'arrachement à quelque chose. Et arriver au point où se perdre jusqu'à ce qu'on ne soit plus rien. Justement, c'est ce rien qui me faisait penser. Et c'est là que ça commençait, qu'on allait à la rencontre du, du monde, et de... mais qu'il était très difficile, c'est vrai, de rencontrer cette... de sortir de ce rien. Parce qu'on le retrouve toujours, toujours dans le voyage, sur sa route, il faut... Et parfois, il y a des moments extraordinaires, mais souvent, lorsque justement, lorsqu'on a tout perdu, qu'on a perdu ses repères, et là, le voyage commence.
Donc, c'est un frère pour vous, Nicolas Bouvier, que, encore une fois, vous ne connaissez pas très bien. Mais est-ce que vous sentez, rien qu'à travers cette voix, qu'il y a quelque chose de commun entre vous ?
Oui. Oui, bien sûr.
Par exemple, quand il parle de jouet inhabité, c'est une image tout de même très forte, de se sentir un jouet inhabité et de partir justement parce qu'on se sent un jouet inhabité.
Oui, on se sent un jouet inhabité, il y a ce grand vide toujours, ce grand vide au-dedans, et il faut aller à la rencontre, il faut aller suffisamment à la rencontre du monde et le rencontrer suffisamment pour enfin arriver à s'emplir de ce monde, de cet univers, de ce monde sensible, de ce monde physique, de ce monde réel, ou juste de la beauté, de la découverte, ou même parfois du dur, du pénible, du...
Même si c'est parfois douloureux. Vous êtes habituée à la pluie, Catherine Poulain, celle sous laquelle vous vous êtes retrouvée très souvent sur des bateaux de pêche en Alaska. Mais là, c'est un autre genre de déluge qui s'abat sur vous depuis quelques semaines. C'est une pluie de prix littéraires. Alors, vous avez reçu le prix des gens de mer 2016. Vous avez reçu le prix de la Compagnie des pêches, qui doit être une lointaine cousine de la Compagnie des auteurs. Vous avez reçu le prix Joseph Kessel. Et donc, vous venez de recevoir le prix Bouvier 2016. Sur le prix Compagnie des pêches, c'est vrai que il doit y avoir souvent des romans qui sont autant faits pour le prix de la Compagnie des pêches que votre roman Le Grand Marin.
Oui, je suis extrêmement touchée. Bon, en écrivant mon livre, j'ai essayé d'être vraiment juste dans les détails, parce que je pensais, je ne veux pas que ça ait l'air d'un petit voyage expérimental d'une petite nana qui s'ennuie et qui veut aller affronter un peu la vie dure. Et donc, je suis très très touchée que des gens du métier aient reconnu mon livre comme un bon livre. Ça, c'est une récompense énorme.
C'était important aussi pour Nicolas Bouvier d'être un écrivain autant ou avant qu'il était un voyageur. Est-ce que vous comprenez ça aussi ?
Oui, bien sûr. Écrivain voyageur, bien sûr.
Ce prix Bouvier, c'est un prix pour les voyageurs. Est-ce que vous vous définissez comme une voyageuse ? Parce que vous avez eu 1000 vies avant de publier ce premier roman chez L'Olivier, Le Grand Marin. Vous n'avez pas fait que de monter sur des bateaux-usines et d'aller pêcher dans le Grand Nord, du côté de l'Alaska.
Au mot voyageuse, je préférerais peut-être le mot nomade. Voyager, dans le mot voyager, c'est on part et puis on rentre, on revient. Nomade, c'est qu'on est en déplacement, on est dans le mouvement toute sa vie et on va d'un lieu à un autre et au gré des événements, au gré des hasards et des impulsions et du monde physique qui existe autour.
Bonjour Christian Garcin.
Bonjour.
Vous êtes un romancier confirmé. Vous publiez aussi, en plus de vos romans, des poèmes et des essais. Et dans Prix aux mots, qui est un lexique que vous avez publié à l'Escampette en 2006 et que nous sommes allés exhumer, eh bien, vous parlez de tous les écrivains, sauf d'un en fait. Et l'écrivain dont vous ne parlez pas, c'est Nicolas Bouvier.
Ah bon ? Ah ben ouais.
Est-ce que vous pouvez réagir sur la première archive qu'on a entendue et sur ce qu'a dit aussi Catherine Poulain ?
C'est curieux ce que vous me dites que je n'ai pas cité Bouvier dans ce lexique, parce que c'est quand même un auteur qui a compté.
J'allais y venir. Oui.
Mais bon, je le découvre, du moins je l'avais oublié, parce qu'il est paru il y a quelque temps quand même. Oui, ce qui est touchant, c'est chez Bouvier, mais alors dans ce qu'il raconte dans l'archive qu'on a entendu, évidemment, je serais tenté de souscrire à tous égards, c'est-à-dire le fait de flâner plutôt que de traverser. En fait, le fait d'être traversé par des lieux plutôt que de les traverser soi-même, quoi. Hein, c'est ça un peu. D'être attentif au monde, de séjourner, d'avoir le temps de séjourner, ce qu'il a fait, ce que Catherine a fait pendant très longtemps en Alaska, ce que mon voisin de gauche, David, a fait également au Chili, ce que moi j'ai fait beaucoup moins, malheureusement, pour diverses raisons, de temps. Enfin,
Donc vous êtes vraiment un écrivain avant d'être un voyageur.
Oui, mais alors, La littérature de voyage, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est de la littérature ou ça n'en est pas. Voilà. Bouvier, indéniablement, c'est de la littérature. Parce que son regard n'est pas uniquement porté vers l'extérieur, il est aussi porté vers l'intérieur. Et c'est ça qui m'importe. En vérité, j'ai écrit des récits de voyage, des carnets de route, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, je n'ai écrit quelques-uns. Mais je ne suis pas un énorme lecteur de littérature purement de carnets de route, de récits de voyage. Parce que, de mon point de vue, je me trompe peut-être, et c'est purement personnel, mais il manque souvent une dimension intime, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui est dans l'extrême attention au monde, dans l'évocation, dans des allers-retours entre l'anecdotique et l'universel, entre l'humain et l'immensité, entre le détail et l'histoire. Il manque souvent cette, dans certains que j'ai lus, et parmi certains d'ailleurs de grands noms de la littérature de voyage, alors je ne dis pas que ce n'est pas bon, je dis que ça ne me convient pas forcément en tant que lecteur, parce qu'il manque une dimension, de mon point de vue, vraiment. Oui, vraiment intime et lié à l'appropriation de l'instant et le regard vers l'intérieur de soi. Et chez Bouvier, il y a tout cela. Il y a à la fois ce sens inouï de l'observation et du détail. Il y a cette langue. Quand on parle de littérature, on parle de langue, hein, donc de mots et de style, c'est cela aussi. Et chez Bouvier, il y a cette langue extrêmement fine, extrêmement ciselée, extrêmement évocatrice. Il y a cette inquiétude, ce désespoir souriant. Catherine me disait tout à l'heure, on m'a souvent dit que c'était un auteur noir. Hein, voilà, tu me disais. Moi, je suis pas sûr du tout que ce soit noir.
On dit que Le Poisson inquiet. Scorpion est un livre noir,
oui,
mais il ne l'est peut-être pas.
Dans Le Poisson Scorpion,
en
il passe son temps sous hallucinogènes. Enfin, je veux dire, il est malade, il est fiévreux, il a des visions. Donc, c'est un peu. Mais il y a toujours cette extrême bienveillance, cette extrême humanité du regard. J'avais lu quelque part un mot concernant Pessoa, qui est l'écrivain portugais, le poète portugais Pessoa, qui quelqu'un parlait de lui en parlant d'intranquillité heureuse. Ça me semble convenir à très bien à Bouvier, l'intranquillité heureuse. Et c'est vraiment une expérience littéraire qui, pour moi, a été, je ne dirais pas fondatrice, parce que je l'ai lu tard, malgré tout, mais importante. Oui.
Et vous êtes tombé dessus comment ?
Je suis tombé dessus, comme souvent, par hasard, enfin, voilà, dans une revue, je crois pouvoir dire qu'elle n'existe plus, qui s'appelait Caravane, des éditions Phébus, à l'époque. Et j'étais tombé sur un texte concernant la ville chinoise de Xi'an.
Ah.
Et j'avais été instantanément saisi, mais pas tellement par le lieu, que je ne connaissais pas à l'époque, mais par la langue, précisément, par la manière de raconter le lieu.
On va revenir précisément, justement, sur ce texte-là et ce que vous en avez fait par la suite. Bonjour, David Lefebvre.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes un admirateur de Bouvier. Alors là, pour le coup, on est sûr que vous l'admirez. Vous lui avez même consacré une exposition et donc on est sûr que vous le connaissez dans ses moindres détails.
Dans ses moindres détails, je ne sais pas, mais tôt ou tard, je devais être amené à le rencontrer. Comment je l'ai rencontré justement moi-même, c'était au début des années 90. J'étais certainement très boulimique de récits de voyage à l'époque, par hasard, puisque étant originaire... d'ici, pratiquement.
C'est-à-dire de Saint-Malo, donc du centre-Bretagne?
Non, pas tout à fait. Je suis Fougeray, je viens de Fougères. Je suis né là-bas. Mais j'allais régulièrement à Bécherel, la cité du livre que nous avons en Bretagne. Et puis j'ai trouvé l'usage du monde, d'occasion. Comme beaucoup d'entre nous, donc j'ai commencé, je suis rentré dans son œuvre avec ce livre. Et puis, il y avait déjà tout un projet qui s'inscrivait sur la couverture, parce qu'il y avait ce dessin de Thierry Vernet, déjà, avec un projet tout à fait bizarre, deux hommes, à cheval, sur un âne, l'un qui regarde vers l'avant, l'autre vers la croupe, un projet complètement énigmatique.
On a l'impression qu'ils ne peuvent pas avancer, parce qu'ils ne sont pas dans le même sens.
Oui, justement.
Ils vont dans un sens opposé, c'est ça,
oui, peut-être que Vernet signifiait quelque chose là-dedans aussi, c'est-à-dire que... Vont-ils vers une route indéfinie, inconnue? Ça, c'est presque sûr. Mais l'un regarde dans un sens, l'autre dans l'autre. Ils vont vers quelque part, ils vont improviser leur vie. C'est probablement ça que ça veut dire aussi. Et puis, il y a déjà toute la cocasserie qu'on va trouver dans l'usage du monde sur ce dessin. Alors ensuite, j'ai ouvert le livre. Évidemment, je suis passé à la lecture. C'est vrai que j'étais assez jeune. J'avais déjà des auteurs, non seulement voyageurs, mais autres aussi, qui me fascinaient. Et là, j'ai connu un bonheur de lecture que je n'avais jamais connu auparavant. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 6 pages, j'ai su immédiatement que j'avais un livre rare entre les mains.
Et vous pourriez définir un peu plus précisément pourquoi et d'où elle vient cette fascination ?
Pourquoi concrètement ? C'est déjà un livre, ce qui ne m'était jamais arrivé. C'était un livre, au bout de ces 5 ou 6 pages, j'ai dû m'arrêter de le lire.
C'était trop dense.
c'était trop dense, c'était tout le contraire d'un livre qui vous tombe des mains, c'est un livre que vous ne pouvez plus quitter. Et alors au contraire, j'ai essayé d'être très épicurien dans ce livre parce que je savais que alors, il me tenait un langage et qu'il me parlait en plus, mais je savais donc qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Justement, je devais m'arrêter, je devais m'installer dans un endroit propice pour continuer la lecture, ça ne m'était jamais arrivé, avoir du silence autour de moi et puis surtout parvenir au point final le plus lentement possible. Alors après, bien sûr, c'est lié au langage, ils m'ont interrogé sur le langage, sur ses mots, sur sa façon de le construire. Oui, c'était véritablement une révélation.
Que vous n'avez pas retrouvé depuis ?
Si, je l'ai retrouvé, mais quand même, à travers l'usage du monde, je suis resté un peu pantelant pendant plusieurs semaines, je ne pouvais absolument plus rien lire.
Et c'était avant que vous partiez, vous aussi, comme ça, sur les routes ?
Alors, j'étais parti sur les routes, mais il n'y avait pas eu de grands voyages. Les premiers grands et longs voyages sont intervenus plus tard. Mais je cherchais quelque chose, inévitablement, puisque je me nourrissais de tous ces récits de voyages. Alors ensuite, bien sûr, il y a eu chez Bouvier, les autres livres sont venus, toute son œuvre, également son œuvre posthume. Et à chaque fois, j'ai retrouvé le même bonheur qui me ramenait à moi aussi, bien sûr, qui me parlait.
Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Nicolas Bouvier. Catherine Poulain, je reviens à vous et à ce livre qui vous a valu le prix Bouvier cette année, puisque comme Nicolas Bouvier, votre narratrice, la dénommée Lily, n'a qu'une seule idée en tête, elle n'a qu'une obsession, et cette obsession, c'est de partir. Son avenir, c'est l'horizon, dit-elle.
Oui. Il y a un moment sans doute où des moments dans la vie où il faut partir, mais ce ne sera plus le même voyage, c'est un voyage total. Il faut, cette fois, il faut trouver. Donc, il y a urgence.
C'est un certain type de personne et de personnages qui partent comme ça.
Mon personnage, moi-même, je suis partie toute ma vie. Ça a été une longue. On peut dire une recherche. Je pensais que j'allais trouver quelque chose dans mes voyages en Asie, dans mes voyages. Depuis mes 15 ans, après la lecture des Nourritures terrestres. Et puis.
C'est Gilles qui vous a envoyé sur les
beaucoup,
routes.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a énormément tout quitté, tout laissé.
Oh, si, vous voyagez peut-être un petit peu.
Aller à la rencontre du monde pour le trouver. Et puis j'aimais tellement ce poème de Rimbaud, j'ai embrassé l'eau pétée, rien ne bougeait. Et quand j'étais sur les routes petites, jeune, et que je faisais l'autostop, je m'éveillais parfois dans les bois et je me disais, voilà, je suis dans ce livre-là. Et j'espérais donc que ma vie soit comme ça, mes premiers départs. Et j'ai beaucoup voyagé, mais j'avais l'impression d'être comme une goutte d'eau sur une toile cirée. Et le départ en Alaska, c'est vraiment le moment où cette fois, c'est pour de bon. C'est ultime.
Donc il y a toujours un voyage fondateur. Christian Garcin, ici, c'est le voyage en Alaska. Pour Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, ça a été ce long voyage raconté dans l'usage du monde. On part toujours pour devenir quelqu'un d'autre que soi ?
Oui, au moins momentanément. Disons que... Dans ce qui me pousse, moi, à partir ou à vouloir partir, parce qu'il y a aussi des velléités parfois, il arrive un moment où le monde devient trop lisible en ce qui me concerne. Voilà. Trop visible d'une part et trop lisible d'autre part. Et dans ce cas-là, j'ai besoin de me sentir dans des endroits, d'aller voir ailleurs si j'y suis en quelque sorte. C'est-à-dire de me sentir dans des endroits où le monde est soudain moins lisible. où je ne comprends pas tout ce qui est dit, je ne comprends pas ce qui est écrit dans les rues, ou pas tout ou pas du tout. Ce sont des odeurs que je ne connais pas. Bouvier parlait d'ouvrir ses narines, ses oreilles et ses yeux. Bon, ben, c'est exactement ça, évidemment. C'est se laisser totalement traverser par une autre expérience du monde.
Mais à son époque, c'était plus facile, parce qu'aujourd'hui, comment être surpris par le monde alors qu'il y a des images du monde absolument partout et qu'on peut voyager avec Street View sur Internet dans à peu près n'importe quelle ville du monde.
Souvent, c'est pas tout à fait la même chose quand même de voir des images de l'extrême-orient russe et de s'y rendre. C'est quand même pas.
Oui, ça donne une idée.
Ah oui, bien sûr. Enfin, à l'époque de Bouvier, des images du Japon, je pense qu'il y en avait déjà pas mal. Et sa chronique japonaise montre qu'il s'agit d'autre chose que d'une simple vérification d'images qu'il avait déjà vues. Mais il est vrai, ce que vous dites est exact. Il y a parfois, il y a sans doute une façon de se déplacer, de déplacer son corps géographiquement qui se limite au fait d'aller vérifier que ce qu'on a vu par ailleurs est conforme. Voilà. Bon, c'est pas vraiment cette façon-là qui m'intéresse, disons. Moi, ce qui m'intéresse, dans la mesure du possible, parce que je suis pas non plus quelqu'un qui part des années dans des conditions extrêmes, je suis pas un aventurier. Ça fait partie des choses que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai malheureusement pas fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'éprouver une espèce de déstabilisation du regard et de moi-même. Voilà, hein, comme je le disais à l'instant, dans un monde un peu moins lisible immédiatement.
Qu'est-ce qui vous a empêché d'être un aventurier ?
Je ne sais pas, les aléas de la vie, vous savez. Hein. Quand j'étais enfant, alors je suis content d'être ici à Saint-Malo, ce n'est pas la première fois que je viens, mais je suis chaque fois très, très content parce que je suis originaire d'ici, du côté de ma mère, enfin de mon arrière-grand-père.
Il y a deux régionaux de l'étape autour de cette table.
J'avais une grand-mère quand j'étais enfant qui me disait « Quand tu seras grand, tu feras comme mon père, tu seras navigateur et tu iras en Chine. » Son père était navigateur né à Paramé. C'était des familles de Paramé et de la région. Là. Et il avait fait l'école de marine marchande, je pense, de Saint-Malo, d'ici. Donc, voilà, dans ce qui m'a poussé, il y a peut-être l'obéissance et une injonction familiale et le fait de ne pas être devenu navigateur mais par contre d'être allé en Chine et ailleurs et de sentir toujours ce besoin d'aller encore une fois confronter mon regard avec ce qui se passe ailleurs et de me sentir un petit peu un petit peu moins dans un état de supposée compréhension et lisibilité du monde quoi.
C'est la démarche qui vous a également conduit à prendre la route, David Lefebvre. Est-ce que vous avez été, d'une certaine manière, déçu par ce que vous avez trouvé au cours de vos pérégrinations ? Parce que parfois, on cherche un ailleurs et cet ailleurs, il n'existe pas. Je pourrais d'ailleurs citer à ce sujet un paragraphe de votre livre, Catherine Poulain, votre personnage Lily, qui dit... La terre est ronde, c'est le bout de rien du tout. T'as rien à voir là-bas, on te l'a déjà dit. Un pays désolé, des gens malheureux, sous et défoncés à longueur d'année, ou les deux qui vivent du welfare et de la prime au pétrole en rêvant tous d'être ailleurs, des Esquimaux qui ont tout perdu, leur dignité surtout, et qui ne feront qu'une bouchée de toit. Donc on va quelque part et on rencontre des gens qui aimeraient bien être là où nous on est. Est-ce que vous, David Lefebvre, vous avez ressenti cette déception parfois ?
C'était pas forcément une déception, mais c'est vrai que je l'ai ressenti dans beaucoup d'endroits, une espèce de comme ça de mouvement inverse. Nous allons vers certaines choses, nous fuyons parfois notre quotidien. Il y a un peu de l'horreur du domicile chez moi, et puis ceux que nous rencontrons sur place, qui ont une vie tout au moins pour le temps qu'on les côtoie, qui peut nous paraître d'une certaine façon correspondre à un certain idéal, et eux aspirent au milieu parfois au lieu d'où on vient. Donc ça interroge. Beaucoup également. Après, pour ma part, pour ce qui est de partir, les premiers départs, je sentais que quelque chose montait, grandissait en moi, que j'étais assez incapable d'expliquer. Toujours est-il que ça mûrissait, et puis le départ, c'est tout simplement une envie de voir s'il va se confirmer, ce que l'on sent monter en soi, une fois sur place. Il y a autre chose qui est intéressant par rapport au phénomène d'arrachement et de détachement. Bouvier disait toujours qu'il y a toujours deux temps dans le voyage, on s'arrache, on se détache, c'est vrai, on s'arrête dans un endroit, on y reste vivre un temps, on y connaît l'hospitalité bienveillante, on en repart, le voyageur est toujours un peu volage, il repart ailleurs, il délaisse ces gens qu'il a connus, parfois ce sont même presque déjà des amitiés qui se sont créées. Donc il y avait toujours ces deux mouvements dont parlait Bouvier que j'ai retrouvé. Et puis par rapport à cette idée de jouet vide, d'intérieur inhabité qu'on a, Bouvier ajoutait quand même malgré tout, et là je me retrouve dans ce que je ressentais étant jeune, là c'est pour parler peut-être plus d'une certaine rébellion adolescente, c'est que Bouvier disait malgré tout qu'on part aussi pour se désencombrer de toutes les choses inutiles que l'on nous a inculquées à nos dépens. Ça a toujours été quelque chose de très important. Donc là aussi, il y avait d'une certaine façon deux temps. Certes partir, mais aussi une fois en chemin, tenter voilà de vider ce sac trop pesant de choses voilà qu'on nous a obligés à porter, notamment pour lui évidemment une certaine éducation protestante, ça va de soi, et voilà, et remplir à nouveau notre sac, notre vie quotidienne avec autre chose de véritablement nourrissant et qui correspond réellement à cette aspiration des départs.
Catherine Poulain, on va vous laisser partir parce que on apprend que vous recevez de nouveau un prix auquel il va falloir que vous vous rendiez. Du coup, quelle serait pour vous la réaction sur... vous partez tout de suite alors.
Oui, dites-moi.
Non, avant que vous n'alliez là où vos obligations vous emmènent, sur cette idée qu'il y a aussi une déception du voyage et sur ce paragraphe de votre livre que j'ai lu il y a quelques minutes.
Oui, il y a cette déception de rester toujours en surface et de trop souvent en surface et de ne pas. Mais malgré tout, ce qu'il disait dans le voyage, que je trouve très 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 beau, c'est on se remplit. Et j'ai toujours trouvé en voyageant que tout d'un coup, il y avait une expansion de moi en quittant, en rencontrant d'autres gens et en les quittant. Et là aussi, à chaque fois, c'est un arrachement. Parce qu'on doit quitter des gens et puis qu'on a aimé. Et un jour, je sais que je me suis dit, mais je vais en mourir. Mon cœur va exploser. C'est pas possible d'aimer tant de gens. Et c'est cet arrachement qui fait qu'on repart ailleurs et on recommence. Et je me disais, si j'étais restée en France, que je n'ai pas bougé, eh bien, oui, je n'aurais pas connu tout ça, je n'aurais pas connu cette... Et ça me semblait toujours miraculeux. Et je repartais, je me disais, il faut repartir parce que ça, il faut que ça continue à...
Merci Catherine Poulain. Vous devez repartir encore une fois. J'espère que ce ne sera pas un arrachement trop difficile.
Merci à vous.
Alors nous nous retrouvons à Troyes, toujours, car nous rejoint Pierre Cross de la revue en ligne Babelio.
Bonjour,
qui, comme chaque jour, ici au festival, vient nous présenter sa chronique. Vous allez nous parler aujourd'hui d'animaux et de littérature jeunesse, Pierre.
Tout à fait. Il n'y a pas que les adultes qui rêvent de grandes aventures et d'inconnus. Le Festival Étonnant Voyageur n'est pas seulement une réunion de grands enfants qui rêvent peut-être un peu innocemment de terra incognita encore à explorer. Les enfants sont présents, notamment à travers plusieurs expositions qui leur sont dédiées. Il y en a une, par exemple, sur la forêt et toutes les légendes, tout le bestiaire qui l'entoure. Vous pouvez voir d'ailleurs les photos des expositions sur le site Étonnant Voyageur et sur Babelio.
Alors, un hommage a même été rendu à René Haussmann.
Tout à fait. Alors, René Haussmann, c'est un illustrateur et auteur de BD belge qui s'était fait une spécialité dans la représentation des animaux, qu'ils soient forestiers ou autres, d'ailleurs, même s'il avait, je crois, une préférence pour ce monde de la forêt qu'il savait parfaitement retranscrire. Et alors, cet auteur nous a quitté il y a quelques semaines. Alors, parmi ses œuvres marquantes, on pourrait citer Le Grand Bestiaire. Et plus récemment, il avait proposé une nouvelle aventure de Chlorophylle en compagnie de Jean-Luc Cornette au scénario. Chlorophylle, c'est une petite souris. Et donc, la BD se passe dans la forêt. C'est très poétique, c'est très beau.
Et des animaux, évidemment, il y en a beaucoup dans la littérature jeunesse.
En effet. Et de notre côté, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur ces animaux qui peuplent la littérature jeunesse. On s'est demandé quels étaient les animaux les plus populaires dans la littérature jeunesse. Alors, je vous pose la question, Mathieu et à tout le monde, quel est selon vous l'animal le plus populaire dans la littérature jeunesse? Est-ce que vous avez une idée, David et Christian?
Winnie l'ourson.
Oui, allez-y. C'est difficile comme question.
Winnie l'ourson.
Winnie l'ourson.
Un animal. Hein.
C'est pas un animal.
Ah oui, non. Si, c'est un ours.
Oui, un ours.
On valide le mot ours.
Ours.
David Lefebvre.
J'aurais dit l'ours, alors c'est pas facile
l'ours.
Maintenant.
Ouais. Moi j'aurais dit le mini cochon. Je trouve qu'on parle pas du tout assez de cet animal qui est captivant et qui serait très bien dans les livres pour enfants.
Du compte, tous d'ailleurs, parce qu'il s'agit du loup. L'étude portait sur.
C'est même pas très original. Hein.
L'étude portait sur près de 2400 titres.
Et le public est contre.
Non,
le public s'inscrit en faux.
Ils aiment aussi les loups, les récits de loups. Alors pour information, donc l'étude portait sur 2400 titres environ de littérature jeunesse. On a pris en compte les romans et les contes. Et donc le loup est arrivé en tête avec 367 apparitions, devançant ainsi le chien, le chat et le cheval. C'est peut-être l'influence du petit chaperon rouge, c'est en tout cas mon explication, j'en ai pas forcément d'autres. Et alors il n'y a hélas pas dans notre classement d'animaux marins. Peut-être que les écrivains jeunesse devraient se rendre plus souvent à Saint-Malo et embarquer sur un bateau depuis le port.
Pas d'animaux très exotiques non plus.
Non, en effet, le premier animal non européen, c'est le tigre. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de tigre en Europe, je pense. Et donc, il est 8e du classement. C'est dommage. Peut-être que le succès au cinéma du Livre de la Jungle donnera envie aux enfants et aux illustrateurs, aux auteurs jeunesse, de s'intéresser à des animaux peut-être plus exotiques.
Alors, il y a des animaux aussi chez Bouvier, Christian Garcin, mais ce sont des animaux qui font un petit peu peur. Ce sont des fourmis, par exemple, ou des insectes qui marchent en procession, comme ça, sur les murs de sa chambre dans Le Poisson Scorpion.
Oui,
c'est
des...
pas des animaux pour les enfants.
Bon, vous savez, pourquoi pas, hein. On peut raconter les aventures d'une fourmi ou d'un cancrelat, hein, après tout. Tout dépend comment on la raconte et ce qu'on en fait. Mais chez Bouvier, encore une fois, dans Le Poisson Scorpion, enfin dans le souvenir que j'en ai en tout cas, il s'agit d'animaux certes avérés, mais aussi un peu délirants. Enfin, du moins, c'est consécutif à un délire de fièvre, ouais, plusieurs délires de fièvre. Il a failli laisser sa peau d'ailleurs.
David Lefebvre.
Oui, il y a quand même deux autres animaux qui comptent pour Nicolas Bouvier, dont il a parlé dans un petit texte, c'est le hibou et la baleine, ah, dont oui. Il considérait qu'ils étaient ses animaux totems.
Voilà, pour, vous pouvez nous raconter coup. Justement un petit peu ce petit texte de Bouvier.
Cette relation-là, bah, je ne sais pas exactement, mais je sais que peut-être justement c'est le contrepoint de son séjour à Ceylan aussi. On peut imaginer ça. Je ne le sais pas du tout. La compagnie morbide des insectes, la maladie qui le mine lorsqu'il est là-bas, ce séjour très noir. Non, lorsqu'il recueillait de l'iconographie, puisqu'évidemment il se promenait déjà au cours des années 60, il voyageait beaucoup cette fois-ci pour dans les musées, dans des maisons particulières, dans des cabinets de curiosités en Suisse et aussi dans toute l'Europe pour recueillir une iconographie illustrée des ouvrages de commande, puisque c'était devenu son métier de subsistance en quelque sorte. Il s'intéressait beaucoup aux animaux, donc parfois même
les animaux légendaires aussi.
Oui, les animaux légendaires, et puis parfois il rapportait aussi des ectachromes, de certains sujets dont les animaux qu'on lui avait pas forcément commandés. Donc il y avait une très grande sensibilité de Nicolas Bouvier pour les animaux, parce que comme on l'a dit, il était d'une curiosité universelle.
Alors Pierre Cros, chaque jour, vous nous proposez des questions d'auditeurs que les auditeurs ont posées donc sur le site internet Babelio.
Et on a beaucoup de lecteurs de Nicolas Bouvier sur Babelio, donc on leur a demandé s'ils avaient des questions autour de Nicolas Bouvier. Alors il y a une question de David, il se demande si il avait le souci d'être réaliste, d'être le plus fidèle à la réalité dans ses textes, ou est-ce que parfois il s'autorisait, est-ce que la littérature prend parfois le pas, et avec des éléments poétiques qui s'éloigne de ce qu'il a vraiment vécu. Est-ce que vous avez peut-être...
Je pense que oui, il s'est efforcé la plupart du temps d'être le plus réaliste possible. À nouveau, on dira qu'il faut mettre à part le séjour un peu halluciné de Ceylan, où c'est presque aussi par moments un conte un peu fantomatique. Mais d'une manière générale, oui, il est très, très, très attaché à cette notion de réalité. Quand je parlais tout à l'heure de ce premier bonheur de lecture, il expliquait que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été très lent, et chaque livre qu'il terminait ne lui permettait pas, ne l'aidait pas à commencer le livre suivant. Il écrivait avec beaucoup de lenteur, et pour lui la grande quête de l'écriture, c'était d'utiliser ces mots qu'on utilise tous, dont il disait qu'ils sont comme de vieilles cuillères qui ont déjà traîné dans toutes les bouches, le souci étant de les réutiliser d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant, donc d'associer un adjectif, un substantif qui crée quelque chose de nouveau, un nouveau mariage, de nouvelles épousailles, en disant ce couple, heureux ou pas, va voguer de lui-même, mais espérons qu'il soit prometteur. Donc il y avait un travail très très subtil autour des mots, c'est pour ça qu'il utilisait aussi certaines expressions. Il parlait d'artisanat pour l'écriture et de travailler le cuir, pour coudre quelque chose dans le cuir du langage.
Merci Pierre Cros, on reprendra juste un peu plus tard une nouvelle question d'un lecteur de Babelio. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, et toute la semaine nous profitons du festival de Saint-Malo Étonnant Voyageur pour parler de Nicolas Bouvier. Nous en parlons aujourd'hui avec David Lefebvre et Christian Garcin.
Je prends des notes et ensuite je les perds. Comme
ah bon, toujours.
Ou alors c'est un boy qui les emporte, qui juge que
alors,
c'est du...
Alors qu'est-ce qui se passe après?
Alors il se passe
un moment de désarroi absolument atroce, parce que c'est 6 mois de travail hivernal ou 5 mois de travail hivernal qui s'en vont en fumée. Parce que sur cette route très lente qui m'a conduit au Japon, d'ordinaire, l'hiver, nous étions sédentaires et l'été, nous étions nomades. Alors l'hiver, on accumulait, j'ai voyagé jusqu'à Kaboul avec un peintre qui est toujours mon meilleur ami, qui vit à Paris d'ailleurs, Thierry Vernet, qui avait illustré la première édition de L'Usage du Monde. Et bon, alors le fait d'être étourdi et de perdre ce que j'ai écrit, ça incite à aiguiser sa mémoire. Et puis j'ai une mémoire visuelle qui est presque chirurgicale. Alors à 30 ans de distance, je peux revoir une auberge et dire combien de fenêtres il y avait.
D'ailleurs, vous nous parlez du Japon d'il y a 25 ans.
Je vous parle la dernière fois que j'étais au Japon, c'était comme photographe à l'exposition mondiale d'Osaka en 70, oui, c'est pas d'hier. Et pour moi, c'est d'hier, je pourrais décrire chaque pavillon. Mais évidemment, là, j'étais comme photographe, l'œil sur l'oculaire. Bon, on enregistre des images rétiniennes, elles ne s'en vont pas si facilement. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut laisser un voyage se décanter. Un voyage ne doit pas forcément déboucher sur un texte. Moi, j'ai fait des voyages qui n'ont jamais donné de texte. Mais s'il doit déboucher sur un texte, il faut un temps de décantation très long, que les choses se mettent en place, que certains syndromes d'irritation, qui sont par exemple pas intéressants, qui sont des réactions épidermiques, s'évaporent, qu'on resitue aussi la gêne qu'on apportait par sa simple présence, parce qu'il y a des tas de moments en voyage où on est très malvenu, on tombe très mal, on tombe pas toujours bien. Et si on est mal reçu, c'est les règles du jeu. On est très mal reçu aussi par certains virus malariques ou certaines amibes qui ne tolèrent pas tellement notre présence chez eux. Bon. Mais ça, c'est les règles du jeu. On ne peut pas prétendre aller et venir, se promener d'une façon, je dirais, assez frugale et puis prétendre toujours revenir indemne. C'est une sottise. Moi, j'ai pas. Il y a des gens qui ont bien plus bourlingué que moi et fait des choses bien plus dangereuses. Mais moi, j'ai quand même laissé une partie de ma santé et de ma résistance physique. Et je considère que c'est tout à fait normal. C'est le kilo de chair de la livre de chair de Shylock.
David Lefebvre, c'est vrai qu'on ne doit pas toujours produire un texte à chaque fois qu'on part un petit peu de chez soi. C'est quand même un bon conseil que nous donne ici Nicolas Bouvier.
Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Il disait toujours qu'un voyage, certains voyages demandent à être racontés, d'autres pas, et qu'il ne faut en gros jamais forcer l'écriture. Et je suis assez d'accord, de même que la poésie, même s'il a écrit peu de poèmes, la poésie est une sorte de visite que l'on reçoit à un instant précis, mais on ne se met jamais devant la feuille blanche avec un stylo pour dire aujourd'hui je vais écrire un poème. C'est autre chose. Choses se provoquent.
Ouais. Christian Garcin, justement, je voudrais revenir avec vous sur un texte qu'on a vaguement évoqué au début, ce texte de la revue Caravane, et qui est donc un texte sur lequel vous vous êtes basé pour partir sur les traces de Nicolas Bouvier en Chine et y découvrir, vous allez nous dire quoi, peut-être rien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cheminement ?
Pardonnez-moi, mais c'est pas tout à fait.
C'est pas comme ça que ça s'est passé.
Non, pas vraiment, en vérité. Disons que la première fois que j'ai lu un texte de Bouvier, c'était effectivement ce texte sur Xi'an, sur la ville, la fameuse ville avec l'armée ensevelie de l'empereur Cixi Huangdi, qui avait été mise à jour en 1974. Et un texte qui m'avait, pour diverses raisons, je sais pas comment dire, plus intéressé, marqué, séduit, enfin. Mais ensuite, je me suis rendu effectivement en Chine à de nombreuses reprises.
Vous êtes allé à Xi'an alors quand même.
Je suis allé à Xi'an, oui, mais pas spécialement en pensant au texte de Bouvier. Je suis allé à Xi'an, je suis allé un peu partout en Chine et à plusieurs reprises, mais sans forcément penser à Bouvier. En revanche, c'est au Japon que j'ai souvent pensé à Bouvier et à ses chroniques japonaises, et puis également à un autre livre qu'il a publié sur le Japon et dont j'ai oublié le titre, d'ailleurs peut-être que mon voisin pourra m'aider, qui est beaucoup moins aimable, disons, à l'égard du Japon et des Japonais. Beaucoup moins
d'abord que... Japon dans la collection L'Atlas des Voyages.
Comment ça, tu dis
Japon d'abord, un ouvrage qui a été augmenté de photos, c'est le premier qui est venu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est retourné en 1970 au Japon, et puis ensuite sa chronique japonaise est venue plus tard, c'est un texte qu'il avait un petit peu modifié, mais surtout augmenté d'une partie de ce qu'il appelait ses cahiers gris, qui étaient des cahiers au crayon gris, évidemment, qu'il tenait en permanence sur place.
Heureusement, vous êtes là, David Lefebvre. Et donc, alors
et donc, voilà, enfin, c'est au Japon que je pensais le plus à Bouvier. Et, parce que c'est le livre que j'ai... Avant L'usage du monde, j'avais lu Chronique japonaise. C'est le livre, Sian étant uniquement un texte, qui est par ailleurs paru dans Journal d'Arran et autres lieux. Mais c'est Chronique japonaise qui m'avait. Le premier livre que j'ai vraiment lu de Bouvier et qui m'avait engagé à lire la suite. L'usage du monde, contrairement à la plupart des lecteurs qui ont commencé par L'usage du monde, le plus emblématique de ces livres, pour moi, il est venu ensuite. Et c'est comme souvent le cas d'ailleurs, c'est souvent le premier livre d'un auteur qui nous marque, qu'on garde en mémoire. Moi, c'est Le bruit et la fureur, c'est Les grandes espérances, c'est L'idiot, alors plus que d'autres qui sont peut-être, pour d'autres, plus intéressants ou plus emblématiques. Donc pour Bouvier, c'est plutôt Chronique japonaise, pour moi, qui a été le déclencheur.
Et qu'est-ce que ça produit alors d'aller au Japon en ayant lu ce texte d'abord? Et est-ce qu'on peut vraiment aller dans les pas de quelqu'un d'autre, ou est-ce que finalement, ça n'est pas possible réellement?
Non, je ne crois pas, enfin, en ce qui me concerne. Enfin si, ça peut être possible, mais dans ce cas-là, c'est un projet littéraire particulier. Je sors d'un, là, je me suis rendu au Tibet cet été en prévision dans le Yunnan et au Tibet d'un livre sur ou autour ou à partir d'Alexandra David Nel. Donc un livre qui va sortir normalement début 2017. Donc là, il s'agissait d'un projet d'écrire un livre sur à la fois le voyage effectué en 2015 et le fameux voyage d'Alexandra David Nel en 1924 où elle est rentrée clandestinement au Tibet pour atteindre Lhasa déguisée en mendiante tibétaine après un voyage de 2000 kilomètres et 4 mois. Donc voilà, là c'est un projet particulier. Mais,
donc du coup, vous voyagez différemment avec en tête ce projet-là?
Oui, voilà, c'est un peu, voilà, sans doute. Quand je me suis rendu au Japon, j'en arrive d'ailleurs, j'étais au Japon la semaine, enfin, je suis rentré la semaine dernière, je pense pas forcément à Bouvier, voilà. Mais la première fois que je m'y suis rendu, il est vrai que j'avais en tête ces chroniques japonaises et cette espèce de dentelle stylistique qui est la sienne pour évoquer ce pays si contrasté et ambigu. Qu'est le Japon, un pays extrêmement, contrairement à beaucoup d'idées reçues, extrêmement calme, extrêmement reposant, le pays de l'absence totale d'agressivité, du souci d'autrui, du petit, du beau, du mignon, du bien rangé, du rien qui dépasse. Alors évidemment, c'est formidable quand on y passe un petit moment. Si on y vit, c'est peut-être un peu différent. Et dans le deuxième livre dont je parlais, dont j'ai oublié le titre de Bouvier, qui est un peu moins aimable à l'égard du Japon.
On va se retourner encore vers David Lefebvre.
Voilà. Il y a ce côté un peu oppressant de la société japonaise, évidemment, qui est une société dans laquelle il est difficile de sortir des sentiers battus et de hisser le museau un peu au-dessus de ce qui dépasse, quoi. Voilà.
Donc en fait, ce sont des impressions qu'on a à la lecture de Nicolas Bouvier. Et c'est vrai que toute cette semaine, les invités qui se sont succédés ici à ce micro ont davantage parlé d'impressions que réellement de moments dans les textes. Est-ce que vous avez un moment dans les chroniques japonaises, par exemple, qui vous revient ?
Non, c'est exact. Enfin, ce que vous dites, c'est vrai. Je n'ai pas de moment particulier qui me revient. Le moment, c'est celui auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est le délire dans la chambre de Ceylan, du poisson scorpion. Voilà. Ça, c'est vraiment le moment.
Il y a peu de scènes.
Voilà. Mais qui n'est pas emblématique vraiment de l'œuvre de Bouvier. Enfin, pas plus que d'autres, en tout cas.
David Lefebvre.
Je pense pour revenir une seconde sur le Japon, je pense que Christian voulait parler justement d'un livre aussi sur le Japon qui est sorti, mais à titre posthume. Le vide et le plein.
Voilà, c'est
là,
ça.
Voilà, c'est
le
un travail.
Plein, c'est
voilà,
ça.
C'est un travail qui a été fait d'archives.
Non. Bravo.
Un travail dans les archives.
Vous remportez puis... les 1000 euros.
Vous êtes trompé d'émission. Un travail d'archives dans Angola qui était effectué après la disparition de Nicolas Bouvier, où on trouve des choses évidemment plus intimes et on rencontre un peu les coulisses de ses précédents livres sur le Japon. Ensuite, pour ce qui est des îles et de partir sur les traces de Nicolas Bouvier, moi, c'est vrai que ça m'a été possible aux îles Aran.
Alors voilà, c'est le moment d'arriver effectivement à ce récit-là. David Lefebvre, vous avez réellement mis vos pas dans ceux de Bouvier et pas forcément dans un endroit du monde auquel on s'attendrait, puisque c'est en Europe, ce n'est pas très loin d'ici. On peut pas tout à fait voir les côtes, vous montrez la direction, hein. Mais c'est en Irlande en fait, voilà, c'est pas très loin d'ici.
Oui, comme quoi il n'y a pas toujours besoin d'aller loin non plus. Je m'intéressais de plus près à un aspect de l'œuvre méconnue de Nicolas Bouvier, sur lequel il resterait certainement à travailler et dont on a moins parlé, surtout probablement parce que le grand voyage de la continuité continentale qu'a été l'usage du monde a éclipsé l'importance assez, oui, l'importance majeure presque des îles dans l'œuvre de Nicolas Bouvier, parce que chronologiquement, il y a tout de même ce séjour assez lent, qui est très long, qui est raconté, même si c'est 25 ans plus tard, dans Le Poisson Scorpion. Bon, effectivement, c'est le récit de la déperdition. Vient le Japon ensuite, où c'est le récit de la Renaissance. Et puis, à partir des années 80, il voyage dans d'autres îles. Alors, il y a les îles coréennes de Jeju, l'île de Quelper aussi, où il part avec sa femme Eliane. Et puis, il vit aussi, à partir des années 80, d'articles. Alors, il est envoyé notamment par le magazine Géo en 1985, justement, et j'y viens, sur l'île Aran, en février. Il y avait effectué un premier séjour un peu plus tôt, en 1978, mais c'était pendant l'été.
Et pourquoi c'est ce moment-là qui vous a intéressé en particulier, ce voyage de 85 sur ces îles-là d'Aran?
Parce que je connaissais l'Irlande, j'y étais déjà très attaché, les îles irlandaises aussi. Et puis,
est-ce que c'était aussi parce que c'était moins connu dans l'œuvre de Bouvier?
Oui, probablement. D'une part, parce que les îles, on en parlait moins, et puis parce que c'était moins connu. Et puis aussi parce que il était possible de retrouver les derniers personnages vivants de l'œuvre de Nicolas Bouvier, mis à part ce maître de Nô qui était encore vivant au Japon. Donc j'étais reparti à la recherche des trois personnages qui peuplent donc le journal d'Aran, son chauffeur de taxi, Michael Hernon, et puis les deux Dirain, l'oncle Dirain et Steve Dirain qui étaient ses logeurs. Et donc, il se trouve que deux d'entre eux étaient encore vivants, puisque l'oncle d'Irain avait disparu entre-temps. Donc, j'ai eu, à mon tour, matière à écrire, parce que j'ai recueilli un petit peu leurs paroles, une sorte d'état des lieux de mon propre voyage à moi aussi. Et puis ensuite, Eliane Bouvier, que je connaissais déjà depuis quelques années, m'a généreusement ouvert les portes de ses archives à la Bibliothèque publique universitaire à Genève. Et puis, j'ai pu travailler, avec l'aide des conservatrices, sur ses tapuscrits.
Et alors, Michael Hernon, donc, que vous avez retrouvé, se souvient vaguement de ce journaliste suisse, hein, il pense qu'il est journaliste, de son sens de l'humour, de sa curiosité, et il dit ces soirées dont il se souvient, donc ces soirées sans eau-de-vie ni potine distillée en fraude, au grand désespoir d'un Bouvier invité dans une famille où, pour cause de préceptes religieux rigoristes, on ne boit ni ne fume, et par-dessus tout cette jubilation à être malmenée par les rigueurs d'un hiver qui, de mémoire ilienne, fut particulièrement rude. Enfin, c'est comme ça que vous traduisez en fait sa pensée, David Lefebvre. Ça a été difficile de le retrouver, ce personnage?
Non, ça n'a pas été difficile du tout. Ça s'est fait très facilement parce que Michael Hernon, qui était un homme boiteux, comme il le disait dans le récit, c'était le principal repère que j'avais. Donc je suis arrivé sur l'île, j'ai débarqué du ferry depuis Galway, j'ai cherché un homme boiteux. Je l'ai vu assez vite parce qu'il avait un pied beau, je crois, probablement une polio dans sa jeunesse, quelque chose comme ça. Et puis je suis allé vers lui, voilà, tout à fait... normalement, simplement. Et puis il m'a déposé, voilà, cette fois-ci chez ses logeurs. Et Bouvier disait que c'était encore mieux d'y être en février. Et ça aussi, ça me parlait pour une question de climat, que l'île était encore plus belle dans l'absolue sauvagerie des tempêtes d'hiver. Alors pour Bouvier, c'était à nouveau quelque chose qui lui convenait, parce que lui, quand il y a climat difficile, quand il y a maladie, parce qu'à nouveau il est malade, et c'est encore un bel alibi aussi pour l'écriture, puisqu'il souffre à ce moment-là de paratyphoïde, donc il est pratiquement cloué aux toilettes parce qu'il a des coliques, une dysenterie, etc. Donc il se retrouve du coup à l'intérieur, à discuter avec cet ancien qui lui raconte ses histoires fabuleuses, notamment lorsqu'il est parti vivre en Amérique. Et au grand désespoir de Bouvier, oui, ça manque d'alcool, parce que Nicolas Bouvier quand même écrivait soutenu par l'alcool et puis le tabac.
Christian Garcin?
Non, j'approuve.
Vous approuvez quoi? L'alcool? Le tabac?
Non, le fait qu'il écrivait.
On n'a pas le droit de dire ça à la radio, je crois.
Si je puis me permettre une publicité pour un livre qui n'est pas de moi ni de mon voisin. C'est pour ceux qui s'intéressent à Nicolas Bouvier et du moins à la postérité des lieux qu'il a traversés après son passage, donc des années après, il y a un très beau livre de photos qui s'appelle L'usure du monde. Un photographe qui s'appelle Frédéric Leclou, qui est sorti il y a 2-3 ans peut-être aux éditions Le Bec en l'air, et Leclou qui suit le voyage de l'usage du monde dans la mesure du possible, parce qu'il y a quand même des lieux qui sont un peu moins traversables aujourd'hui, et qui publie des photos de ces lieux en 2000 quelques, enfin donc une cinquantaine d'années après. Voilà, c'est juste une parenthèse.
Oui, et les lecteurs peuvent aller sur Babelio voir s'il s'y trouve, mais il s'y trouve sûrement, ce livre, sur Babelio.
Il y a forcément des critiques, il y a forcément des citations, il y a aussi du texte. Alors peut-être une question justement sur le rapport à la photo. Nicolas Bouvier était également photographe. Pourtant, ses textes ont fait de lui d'abord un écrivain. Quel rapport il entretenait avec la photographie? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce...
Ouais, je pense que c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit que c'était un grand visuel, et c'est pas pour rien qu'il a été photographe, qu'il a été iconographe, parce que l'image et la mémoire photographique avaient une très grande importance, ne serait-ce que, on va dire, cérébralement parlant. Donc c'est tout ça est lié. Je pense qu'il y a une certaine continuité.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette enquête que vous avez menée en Irlande sur les traces de Nicolas Bouvier. Alors d'abord, il faut signaler quand même qu'il était parti avec un livre. Et il n'était parti qu'avec un seul livre. Et ce livre, c'était les sagas celtiques. Manque de chance. Dès qu'il l'ouvre, il se rend compte que c'est un livre qui ne l'intéresse absolument pas. Et donc, il se retrouve comme ça sans rien à lire. Mais c'est aussi un épisode de frugalité de partir juste avec un seul livre.
Oui, c'est vrai qu'il part vierge, du coup, et il va se remplir sur place. Et puis en plus, cette île d'Aran, enfin la principale île d'Aran, la grande, Inishmore, sur laquelle il se trouve, et aussi l'Irlande, parce qu'il fait un séjour à Clonmacnoise, où tout ça est porteur d'histoires complètement cocasses, comme il les adore. Il explique lorsqu'il est à Clonmacnoise, par exemple, et ça c'est du Bouvier... pur et dur, je pourrais dire, que voilà, on lui explique que les routes serpentent, alors que dans la région de Clonmacnoise, bon, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus vallonné en Irlande, mais les routes serpentent tout simplement parce que les femmes, à l'époque où elles les pavaient, donc les femmes travaillaient à la construction des routes, elles avaient des coiffes, donc assez hautes, comme si ça avait été les bigoudens, c'est évidemment ce à quoi ça nous fait penser. Et puis lorsque le vent changeait de sens, pour toujours avoir le vent dans le dos, elles changeaient le sens de leur travail. Donc il expliquait que c'est pour la raison pour laquelle les routes sont sinueuses. Donc sur place, finalement, pourquoi s'encombrer à nouveau, puisque de toute façon, ce que vont nous dire les locaux, et à plus forte raison probablement sur une île un peu reculée et peu peuplée, va nourrir le texte. Et c'est ce qui se passe également lorsqu'il converse, pendant qu'il est malade avec son logeur, qui lui raconte comment il a fait sa pelote en Amérique. Il y a une page, mais qui est délicieuse dans le texte, parce qu'il explique que bon, il arrive d'abord aux États-Unis, on est après la crise de 29, la récession, d'autant plus d'Irlandais donc partent chercher du travail aux États-Unis. Et puis donc l'oncle d'Irene dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, travaille d'abord comme soutier dans un remorqueur sur le lac Erie, puis ensuite il arrive à New York. Et puis une fois arrivé à New York, il est embauché par des nonnes, des religieuses irlandaises, à travailler à une grande chaudière dans un endroit où on étuve les vêtements des clochards et des chômeurs, qui évidemment après la crise de 29 sont très nombreux dans les rues, donc on imagine une espèce d'énorme structure. Et puis l'oncle d'Irene était employé à jeter des pelletées d'anthracite dans cette grande chaudière. Et puis Bouvier explique, enfin il cite d'Irene, et peut-être que là, pour revenir à ce que vous demandiez tout à l'heure, entre le réel, bien tourner sa phrase évidemment et la rendre cocasse, ce qu'aimait faire malgré tout Bouvier, il explique, donnant la parole cette fois-ci au vieux d'Irene, qu'à chaque fois qu'il jetait une pelletée dans la machine, il voyait une rue entière qui cessait de se gratter, parce qu'évidemment il y avait la vermine, les puces qui étaient contenues dans ces guenilles, et tout est du même tonneau. Et du coup Bouvier au final le qualifie de pourfendeur de morpion.
Oh. On va terminer avec une citation, elle est pour vous Christian Garcin, c'est une phrase de Léoto. « Tous mes plaisirs viennent de livres de cette sorte où la pensée de l'homme qui les a écrits m'occupe en même temps que la lecture. » Et c'est une citation qui peut et qui vous fait penser, j'en suis sûr, à Nicolas Bouvier.
Absolument, d'autant que je l'ai utilisé dans un texte que j'ai écrit sur
Comme Bouvier. Comme c'est bien fait.
Effectivement, voilà. Cet texte, oui, les auteurs en littérature, alors là, je ne parle pas de voyage, encore une fois, la littérature de voyage, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais en littérature, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de pouvoir sentir celui qui écrit à travers ce que je lis, voilà.
Alors, tout à l'heure, vous avez été d'une très grande modestie quand on a parlé des animaux et des livres d'enfants. Et vous n'avez pas dit que paraît juste en ce moment à l'école des loisirs un livre de vous et qui parle de baleines, et c'est pour les enfants.
Un livre qui s'appelle La perspective du condor, qui sont des contes animaliers. Pour les enfants, disons, enfin, de mon point de vue, c'est pas pour les enfants, c'est pour les grands ados et les adultes, hein, sans aucun doute. C'est fait partie intégrante du reste.
Mais, j'espère que vous avez tous bien noté ça.
Histoires animalières, parmi lesquelles, alors on disait qu'il n'y a pas beaucoup de baleines, c'est ça? Bon, non, là, il y a une baleine qui a un rôle central. La perspective du condor, voilà.
Et nous terminons comme chaque jour par la poésie de Jacques Bonafé. L'auteur choisi cette semaine par Jacques Bonafé s'appelle Annie Scholz. Elle est originaire du Luxembourg et sa poésie exprime un combat intérieur dont il est difficile de cerner l'ampleur autrement qu'en s'abandonnant à la force de propagation de son écriture. Aujourd'hui, béni soit le serpent.
Casser le mot comme une noix, en extraire le noyau, le broyer entre les dents, le recracher en poème, dit Annie Scholz dans « Béni soit le serpent ». Bonjour. Chaque poème est une descente aux enfers, une chute dans l'inconnu, une angoisse de ne pas savoir si le retour sera possible. Mon corps est chaud comme le seuil d'une église. Quand tu entres en moi, la Bible divague. Merci, Annie Scholz, merci d'oser ces mots insensés, simples et insensés. Une nuit au-delà de la nuit nous attend, une nuit au-delà de tout savoir. Elle nous efface de son tableau noir. Réaction d'un autre poème, nous sommes immortels tant que nous vivons. Chaque poème s'écrit pour revenir au silence. Il est ultime. S'aventurant trop près de la mort, il perd son chemin de retour. Pluie. La pluie est un grand chien brun. On le fouette, on le chasse à travers les villages. Mais dans les champs, il s'arrête et lèche ses blessures. Annie Scholz, au visage doux, est-elle pacifique ou violente? Mon poème se fera-t-il dans une négociation de paix ou dans la violence? À la fin, je me soumets aux mots comme à la mort. Tout perdre, très beau poème d'Annie Scholz, tout perdre. Aimer, c'est être mortel et lutter contre avec toi. Pénétrer dans ta chair en nageant, m'y mordre et me posséder. Tout perdre pour continuer à vivre dans une peau humide et calme comme une grotte. Abattez mes branches, sciez-moi en morceaux, les oiseaux continueront à chanter dans mes racines. Je chante pour la mort, je chante pour le silence, je chante pour lasser Dieu, pour l'endormir comme j'endors ma vie. Je n'arrêterai pas. Oui, j'écris. Nuit et jour, lorsque vous m'enterrerez, je n'arrêterai pas. Dans cette terre aux entrailles enténébrées, je continuerai l'écriture avec le bout de mes os. Mes poèmes sont des pèlerins qui se déchaussent devant les paroles. Le langage nous envahit comme le flux de l'océan. Lorsqu'il se retire, du sable grince entre nos dents.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes de la poétesse Annie Scholz. Point d'orgue à cette compagnie des auteurs consacrée toute la semaine à Nicolas Bouvier. Merci à mes trois invités d'aujourd'hui. Catherine Poulain, lauréate du prix Bouvier 2016, entre autres, remis ici à Étonnant Voyageur pour son livre Le Grand Marin, paru chez L'Olivier. Merci à vous, Christian Garcin. Vous avez une double actualité avec la parution des Vies multiples de Jérémia Reynolds, c'est chez Stock, et d'un livre pour l'école des loisirs intitulé La perspective du Condor. Merci enfin à David Lefebvre. Votre livre « Le galop du vent sous le ciel infini, chroniques australes » est disponible aux éditions Le Passeur. Vous pouvez réécouter ce numéro ainsi que tous les autres en podcast sur le site internet de France Culture. Nous sommes également présents sur Twitter et Facebook. Demain, vous retrouvez Continent Musique de Mathieu Conquet. Et lundi prochain, nous entamons une semaine à destination des lycéens de première et de leurs parents. Une semaine spéciale bac de français. Des professeurs, des élèves, des écrivains même prodigueront leurs conseils pour réussir cette épreuve.
Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la technique Roland Dandalex, Loïc Duros, Pierre Quintard et Alexandre Martin. Merci à eux. Coordination à Étonnant Voyageur, Véronique Lesage et toujours Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Sophie de Lombarès. Dans un instant, Aurélie Luneau, La Marche des Sciences.